au réseau Cogeco.
Vous écoutez Auto 360.
Auto 360 avec Daniel Boudreau.
Avec Daniel Boudreau.
Bienvenue à Auto 360. J'espère que ça va bien parce que nous autres ici, on est en feu et c'est le cas de le dire. Aujourd'hui à l'émission, on tombe en émission spéciale. Je ne veux pas vous faire peur, là, mais le mauvais temps s'en vient. Les températures froides vont arriver. Ça va sauter sur nous comme on ne peut pas imaginer. Alors pour ça, aujourd'hui, on va parler de pneus. J'ai un invité un petit peu plus tard où vous allez pouvoir lui poser des questions concernant vos pneus d'hiver. Quand c'est quand qu'on installe ça? Qu'est-ce qu'on choisit? Qu'est-ce qui est le mieux pour sa voiture? Bref, Jean Guiroy va être avec nous un petit peu plus tard. Mais avant ça, on va saluer les invités qui sont là. Mes collègues. Salut Marc.
Salut mon cher.
Comment ça va?
Ça va très bien.
Beaucoup de choses dans l'actualité cette semaine, Marc.
Oui, beaucoup, hein? Beaucoup de choses, dont nos amis de Tesla.
Oh, on va en parler tantôt, 10 ans, pas plus.
Mais bon, je pense que juste de dire ça, ça allume un peu les partisans de Tesla.
J'espère que c'est des bonnes nouvelles.
C'est des nouvelles.
Tu conduis quoi, Marc?
Je conduis la Mini Clubman PHEV. En fait, c'est la version branchable, la petite Mini. C'est intéressant parce que ça nous permet d'avoir 224 chevaux dans une voiture qui est très économique. 40 km d'autonomie une fois qu'elle est branchée électrique. Et c'est la Clubman, c'est quand même la All Four, donc 4 roues motrices, un peu plus d'espace que dans la Mini traditionnelle. Et moi, je suis un fan fini du design de la Mini. J'adore ouais. Cette voiture-là, j'adore sa tenue de route. Alors évidemment, je me gâte un peu cette semaine.
Ah, ça va être le fun. C'est le fun. Ça, c'est une voiture qui va bien.
Voiture qui va très bien. Et comme je te dis, ce qui est le fun de la Clubman, c'est que tu as un peu d'espace aussi pour transporter des choses, asseoir du monde en arrière, tu te sens pas tout coincé, mais tu as quand même le look Mini avec les espèces de boutons qui ont l'air du cockpit d'avion et l'espèce de cadran là, qui est fait pour les aveugles. Là. Mais pour le reste, c'est une voiture qui va très, très bien.
C'est difficile à comprendre pourquoi ils l'ont fait aussi gros. C'est épouvantable.
Ben, je sais pas, mais je pense avoir avec le style, tu sais, toutes les rondeurs. C'est pour ça, probablement, je me sens attaché à la Mini avec les rondeurs, mais j'aime ce design-là, j'aime le style et j'aime la conduite, la stabilité. J'aime moins le prix, par exemple, quand même, 48 000 $ pour la version que je conduis. C'est un petit peu cher pour ce genre de voiture-là.
Effectivement, hein? C'est 48 000. C'est pas gros pour 48 000 $. Ouf!
Non, il me semble qu'on peut avoir beaucoup de voitures pour 48 000.
Je suis à l'opposé, moi, avec ma GTR. Un monstre épouvantable, 550 chevaux. C'est de la mécanique. Tu es en harmonie directe avec la mécanique. Tu entends la mécanique. Cette voiture-là me fait penser, puis je l'ai roulé un petit peu sur une piste de course. C'est peut-être la plus muscle car des Japonaises. C'est peut-être la plus américaine des Japonaises. Quand t'aimes ça, rough, dur, t'es habitué d'avoir des sportifs japonaises plus raffinés. Et celle-là, vraiment, t'entends, tu ressens même la mécanique. Salut Philippe.
Salut Daniel.
Comment ça va?
Ben, ça va très, très bien. Je conduis cette semaine une Cadillac qui coûte à peine 10 000 $ de plus que la Mini Cooper. Enfin, c'est un pensez-y bien, la Mini Cooper, quand même.
Et avec les rabais GM, probablement qu'elle est 2 000 de moins.
Oh oui, puis c'est pas une ATS de base. Là. C'est une V6 quand même, là, coupée, puis très, très bien équipée. Là.
Aïe, aïe.
Ouais.
Oh,
ouais.
Ça veut-tu dire
59 000.
Ça veut-tu dire que tu vas nous parler de Cadillac bientôt?
Ben, tellement pas. Bientôt peut-être, mais pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui.
Okay,
J'ai répondu trop vite.
Ouais, aujourd'hui, tu nous parles de quoi?
Ah, moi, on va être dans le petit, mais un peu dispendieux également. Parce qu'aujourd'hui, on va parler de la Fiat 124 Spider et de la version la plus sportive, la version Abarth.
Oh, okay.
Vous allez voir que c'est pas donné, ça non plus.
Et l'histoire de Fiat par le fait même?
Pas tant de Fiat que de la 124 en tant que telle. Hein? Parce que Fiat, ils n'ont pas beaucoup de modèles mythiques. Là. C'est quand même un constructeur généraliste. Mais ils ont la 500 et ils ont bien sûr la 124. Alors aujourd'hui, on va faire l'histoire de la 124. On va voir qu'est-ce qui a mené finalement à la 124 d'aujourd'hui. Puis qu'est-ce qui a mené essentiellement à la Miata?
Hein?
Ben oui, parce qu'il y a un lien. D'abord, la Miata n'existerait pas s'il n'y avait pas eu tous ces petits roadsters-là avant elle, italiens, japonais, britanniques, italiens et britanniques surtout, par contre.
Okay.
Et il y avait eu quelques roadsters japonais aussi dans les années 60. Hein. On en a parlé quand on a fait l'histoire de la Z. Et ce sont ces petits roadsters-là des années 60 qui ont plus tard donné l'idée aux gens de Mazda de ressusciter le concept en version plus fiable avec la Miata.
Et là, on va voir qu'aujourd'hui, il y a peut-être un lien.
Ah ben, direct, hein? Direct.
On va en parler tantôt, mais je veux juste clarifier une chose.
Oui.
Philippe, tu viens de me dire que la 500 est mythique. Mais c'est pas la 500 qu'on a ici.
Ben, l'ancienne 500. Hein?
OK.
Oui, évidemment. Celle d'aujourd'hui, je pense pas qu'elle va passer à l'histoire, mais c'est quand même, c'est... qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, parce que c'est une voiture qui est très...
Elle continue l'héritage de la 500, mais il faut dire qu'elle est pas née avec la version que nous, on connaît, la 500.
Ah non, pas du tout. C'est un petit peu comme la Mini Cooper. Là. C'est une voiture qui existait il y a beaucoup plus longtemps que ça. Dans le cas de la Fiat 500, on est dans les années 50. Là, donc, voilà, Mini Cooper, fin des années 50 aussi, si je ne m'abuse, 59, je pense. Alors, c'est des voitures qui ont eu deux vies, finalement, deux existences bien distinctes.
Voilà, on se reparle tout à l'heure. Merci, Philippe.
À plus.
Alors, voilà, si vous voulez nous poser des questions pour les gens de Montréal, 514-790-9850, Québec 418-670-9330. Pour les gens ailleurs, 1-866-790-9850. Et vous pouvez aller sur auto360 à cogecomedia.com pour nous poser vos questions. Sans plus tarder, on fait une pause. Au retour, nous avons des nouvelles, puis on parle de pneus. Restez là.
Au réseau Cogeco, Auto360,
avec Daniel Boudreau.
L'automobile sous toutes ses soutures, ses coutures, c'est en tout cas.
Auto360,
les nouvelles de l'industrie avec Marc Bouchard.
Oui, voilà, nous sommes de retour et les nouvelles de l'industrie. Marc, tu vas commencer avec Tesla. Puis Tesla, ça chatouille tout le temps un petit peu. Mais là, tu nous donnes-tu des bonnes nouvelles, des moins bonnes nouvelles? Qu'est-ce qui s'est passé? Tesla a eu une semaine qui n'est pas terrible.
Non, mais une semaine qui est assez difficile, en fait, parce que ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait, comme on le fait régulièrement dans des compagnies, on a fait une évaluation annuelle des performances et on s'est aperçu qu'à Palo Alto, en Californie, là où il y a le siège social, ben c'était pas exactement aussi efficace qu'on s'y attendait. Donc, on a effectué plusieurs centaines de licenciements. On a mis des gens à la porte, littéralement, de l'usine californienne. Oh. Ça, c'est le premier élément et on nous dit non, c'est normal, c'est un ajustement. En même temps, c'est pas tout à fait bon signe. D'un autre côté, on a aussi profité de l'occasion, les gens de Tesla, pour blâmer les fournisseurs en disant « c'est les fournisseurs qui sont pas capables de nous amener assez de matériel, c'est pour ça qu'on n'est pas capable de sortir notre modèle 3 ».
OK.
Bon, on peut, tu sais, c'est facile un peu de faire porter la faute aux autres. Donc, évidemment, pour Tesla, c'était pas la meilleure nouvelle. Et pour aller dans la série des mauvaises nouvelles, ben, il y a eu le rapport Consumer Report, dont on parlera peut-être un peu plus tard si on a du temps, concernant la fiabilité des véhicules. Et on a accordé à la Model 3 la note moyenne. Évidemment, les gens de Tesla sont furieux parce qu'ils disent « Écoutez, vous avez même pas conduit la voiture, vous pourriez au moins attendre de le
faire. »
C'est
ça. Sauf je les comprends. Je les comprends un petit peu de ce côté-là, par exemple.
Oui, mais ils le font comme ça depuis des années avec tout leur classement. C'est-à-dire que quand c'est des nouveaux modèles, ils se basent sur la moyenne de l'entreprise. Ça veut donc dire que la Model X puis la Model S, c'est loin d'être des modèles de fiabilité.
C'est
très, très dans la moyenne. Alors, la Model 3. La seule bonne nouvelle de la semaine, en fait, elle provient d'Allemagne, où Tesla a une filiale qui s'appelle Grohmann, qui est une filiale électronique. Les employés ont reçu une augmentation de 30 %. Ouais, c'est pas rien. Ils ont eu un petit bonus comme ça. Ils se sont ramassés avec 10 000 euros en actions de la compagnie Tesla et une prime de 1 000 euros chacun pour la paye du dernier mois.
Wow, bonne nouvelle.
Alors, tu sais, tout n'est pas si négatif chez Tesla, finalement.
C'est une bonne idée, ça, à laisser aller, tu sais, les employeurs, là, tu sais, je dis ça de même, là, c'est une bonne idée, ça.
30%, moi aussi, je suis bien d'accord.
Ben oui, hein?
J'attends que, je sais pas, mettons, mon animateur décide de me donner une prime.
Moi, j'attends la même chose d'un employeur X, là. C'est bon, fait que on se tient au courant pour les nouvelles de l'industrie. Mais j'ai dit en ouverture d'émission qu'on était en émission spéciale concernant les pneus parce qu'il y a beaucoup de questions lorsqu'on vient le temps de parler de pneus. C'est quand qu'on les pose, est-ce qu'il faut les poser trop vite, trop tard, etc. Et j'ai un invité ici même en studio qui est Jean Guiroy de DRNA Pneus Mécaniques. Salut Jean-Guy.
Salut Daniel.
Comment ça va?
Ça va très bien, toi aussi.
Alors Jean-Guy, d'entrée de jeu, on fait un peu différent l'émission pour te parler très tôt parce que je veux que les gens puissent te poser justement des questions.
Oui.
Puis on va y aller justement avec la fameuse question, on les pose quand ces fameux pneus?
Ben, normalement, ici à Québec, toujours au moins, on sait très bien que de coutume, après l'action de grâce, les journées raccourcissent, donc le temps d'ensoleillement étant moins long, la chaussée monte moins en température. On sait que c'est le facteur numéro un, la température, qui vient contrecarrer la durabilité de nos pneus d'hiver. Parce qu'on sait qu'un pneu d'hiver, c'est un pneu qui est plus vulnérable à la chaleur à cause de ses lamelles qui sont déployées sur la bande de roulement. Donc, à partir de l'action de grâce, une fois que l'action de grâce est passée, la coutume est qu'on commence à poser nos pneus d'hiver. On a commencé à faire le ménage autour de notre maison. Donc, on ouvre le cabanon, puis on sort nos pneus, puis on va faire installer nos pneus. Donc, je pense que c'est... Mais c'est mieux d'être prêt, parce que le soir, au moment qu'on ne s'attend pas, même si on a une très belle automne, le soir, c'est pas trop long. Quand le soleil diminue, on voit un changement de température qui est brusque. Ici, ça donne d'avoir de la pluie un petit peu dans le jour. Le soir, on peut peut-être trouver de la glace noire, des fois, sur le retour.
Jean-Guy, on parle souvent que la température idéale, en fait, c'est quand la température est à, en moyenne, 7 degrés.
Exactement.
C'est là que les pneus ajustent le mieux. Est-ce que, parce que, bon, on parle de la région de Québec, mais il fait froid à Québec, oui. On le sait, tu sais, Montréal, c'est toujours plus chaud. Alors, si on y allait en termes de température, est-ce que le 7 degrés, c'est vraiment réel?
Le 7 degrés, c'est assez réel, ça, mais comme je disais, tu sais, c'est le temps d'ensoleillement, parce que le bitume, là, aussitôt qu'il monte en chaleur, puis qu'on fait de longs déplacements, mettons que je prends mon véhicule avec mes pneus d'hiver, puis que j'ai une journée qui fait 15-20 degrés, puis je fais un long déplacement, mettons que je vais vous trouver dans votre région de Montréal, et puis que je pars de Québec, bien c'est sûr que je vais avoir hypothéqué un petit peu mon pneu. Mais tu sais, il faut quand même faire pas mal de kilométrage pour faire toute une différence d'usure prématurée sur un pneu d'hiver. Fait qu'on sait très bien qu'on s'en va vers cette saison hivernale. Donc, à partir du 15 octobre, ça a toujours été une date butoir dans la tête de tous les consommateurs avertis de commencer à se mettre prêt. Parce que, comme je le disais, tu sais, puis le 7 degrés que tu mentionnes, effectivement, Marc, c'est entièrement raison. C'est la température où ce que le caoutchouc va réagir le plus au niveau d'usure qu'on peut faire sur nos pneus.
Justement, concernant cette usure, parce que là, t'en as parlé, là, on commence à sortir nos pneus du cabanon, on sort nos pneus qui sont entreposés chez notre garagiste, et là, il faut regarder l'usure. Qu'est-ce qu'il faut regarder sur ces pneus-là avant de les réinstaller? Parce que lorsque on enlève les pneus, on les sort, on ne veut plus rien savoir des pneus d'hiver, puis on est bien content dans plusieurs cas. On ne s'attarde pas. Là, qu'est-ce qu'on doit vérifier sur ces pneus?
Bien, premièrement, si on a une usure égale sur nos pneus, parce que des pneus aussi, ça peut nous parler. Hein. Ça nous donne une idée de notre état de mécanique sur notre véhicule, parce qu'on peut retrouver des mauvaises usures sur les pneus. Fait que qu'ils soient usés prématurément sur l'épaulement ou sur l'intérieur d'un pneu, côté gauche, côté droite, en avant, en arrière, ça va tout de suite nous indiquer de donner un signe d'avertissement, surtout quand on retire nos pneus d'été puis qu'on vient pour installer nos pneus d'hiver, puis qu'on s'aperçoit que, oups, on a une mauvaise usure qui s'est produite. On a été négligent un petit peu sur les permutations de nos pneus. Et par contre, ça peut avoir un problème au niveau du réglage, de la géométrie du véhicule, dont l'alignement. Fait que ça peut nous allumer une lumière, dire, ben, on va installer nos pneus d'hiver, on va nous mettre toujours les meilleurs à l'avant, malgré tout ce qui se dit. Parce qu'on est sûr d'avoir une bonne traction pour avancer. Ça sert à quelque chose d'avoir une bonne adhérence, une bonne tenue de route, mais c'est important d'avancer avant tout. Fait que c'est pour ça qu'on privilégie les pneus avant les moins usés. Également aussi une question, parce qu'il y a plus de poids sur le véhicule en général en avant, donc puis sont sollicités, la conduite est là-dessus, gauche-droite, droite-gauche, donc c'est mieux d'avoir ces pneus-là. Après ça, ben faire vérifier le parallélisme, l'alignement, et ça rentre en ligne de compte, Daniel, aussi, sur la stabilité puis la sécurité de rouler en hiver avec un véhicule que le parallélisme est adéquat.
Voilà, on a déjà une question sur Auto360 à cogecomedia.com, Jean-Guy, concernant l'azote ou encore l'air...
L'air régulier. L'air standard.
Est-ce qu'on met de l'azote ou
l'azote, du standard? Pourquoi s'en priver? Parce que c'est à peu de coût. Et on sait les bienfaits de l'azote. L'azote, qu'est-ce que ça fait? Ça fait pas des miracles, là. Ça ne vous empêche pas de faire des crevaisons. Mais par contre, ça tient une pression d'air stable dans votre chambre d'air du pneu. Et qu'est-ce que ça fait? Pourquoi c'est beaucoup plus populaire, l'azote, également? C'est à cause des dimensions, les diamètres qui ont explosé dans le domaine de l'automobile. On parle beaucoup plus de 17, 18, 20 pouces, comme les standards dans l'industrie. On est loin du 13, 14 pouces. Et notre chambre d'air, le volume d'air qu'il y a dedans, c'est que si on a 4 à 5 PSI de différence sur nos pneus, on s'en rend compte beaucoup plus qu'anciennement. Et donc, l'azote va nous aider à garder une pression d'air plus stable et surtout sur de longs déplacements, justement. Et c'est ça que, si on arrive avec un pneu en surgonflage quand on fait un long déplacement, bien, ça fait en sorte qu'on va faire une usure prématurée dans la bande de roulement vers le centre.
Voilà, Jean-Guy, les gens, si vous voulez appeler hein, concernant les pneus, vous avez des questions concernant les pneus, ne vous gênez pas, Jean-Guy est là pour ça et il va y répondre parce qu'on hésite entre certains choix de pneus. Qu'est-ce qu'on devrait choisir? Des pneus, pas de pneus? Des pneus d'hiver, pas de pneus d'hiver? Jean-Guy va rester avec nous tout au long de l'émission. On a Patrice en ligne. Bonjour, Patrice.
Oui, bonjour. Je souhaiterais avoir un petit conseil de votre part. C'est oui. que je vais avoir une fin de location de ma Golf GTI à l'été 2018. Et je regarde la possibilité de vivre l'expérience d'un petit VUS, mais qui serait sport. Alors, j'avais pensé... soit peut-être dans l'usager un Tiguan ou un Forester XT ou dans le neuf peut-être que je pourrais aller vers le CX-5 ou le Crosstrek ou un Sportwagon.
Dans le sport, Tiguan va te donner une conduite. Vous êtes déjà chez Golf. Moi, j'aime ça quand vous êtes chez une marque, essayez de rester dans la même marque. Le Tiguan s'avère un très bon choix pour avoir une conduite un peu plus sportive, un véhicule qui est solide. Et dans le véhicule d'occasion, il y en a quand même certains véhicules, là, il y en a quand même plusieurs. Il garde une bonne valeur de revente. Par contre, vous allez payer un bon prix, mais vous allez avoir tout un véhicule dans les mains. Forester XT, vous allez perdre un peu au niveau du plaisir de conduire dans l'ensemble du véhicule, mais c'est quand même un bon choix. Ça va être d'en trouver un avec un kilométrage raisonnable, mais je ne peux pas vous garantir le même niveau de fiabilité. Puis CX-5 2017, il faut aller vers le 2017. Au niveau de la conduite, il a complètement changé ce véhicule-là. Il est beaucoup plus stable sur la route avec le nouveau J-Victoring. Toi, Marc, qu'est-ce que tu en penses?
Ouais, effectivement. Moi, j'opterais effectivement pour le CX-5 9. C'est vraiment une nette amélioration par rapport à ce que c'est. Le Forester, honnêtement, c'est plus un SUV. Vous allez avoir beaucoup moins de plaisir sportif avec ça. Vous avez par contre parlé du Sportwagon. Évidemment, on est moins SUV un peu. On est plus dans la grosse familiale. Mais honnêtement, c'est une voiture que moi, j'ai beaucoup aimée, là.
Oui, absolument.
Ça aussi. Et vous êtes déjà dans le golf, vous connaissez déjà cette conduite-là, comme Daniel vous l'a dit. Je pense qu'effectivement, ce serait un excellent choix.
Merci beaucoup. Alors, on parle maintenant à Germain. Bonjour, Germain.
Oui, bonjour. Écoute, moi, je regarde pour des pneus qu'on peut garder quatre saisons, là, comme le. Je regarde le BF Goodrich. Moi, j'ai un sprinter, puis c'est sûr que c'est un campeur, c'est que je vois un petit peu l'hiver un peu nocturne, mais je reviens souvent, puis c'est encore l'hiver. Je trouvais intéressant ce pneu-là. Puis aussi, je regarde pour le confort aussi, parce que là, j'ai des Michelin, puis Michelin, ben, je les aime beaucoup, là. Puis. La tenue de route, un petit peu, là, sur la dureté, là, tu sais, si c'est plus. C'était aussi confortable ouais. comme pneu. Là.
Quelle bonne question, Germain, Jean-Guy, ces fameux pneus 4 saisons. Le retour des pneus 4 saisons.
Oui, le retour déguisé des pneus 4 saisons. Ah. Parce qu'on sait très bien que c'est des pneus où on est allé s'acheter un pictogramme avec le fameux flocon pour avoir le droit dérouler en hiver. Ça reste que c'est un très gros compromis que vous faites en choisissant cette option-là. Parce que c'est sûr qu'en été, ce ne sera pas des pneus qui vont vous donner un millage excessif. Et en hiver, vous allez manquer de traction quand vous allez en avoir vraiment besoin. Mais tout dépendant de l'utilisation, si c'est un motorisé que vous avez sprinter, c'est sûr que vous ne devez pas utiliser ça tous les jours dans nos conditions hivernales les plus terribles.
Les gens qui vont dans le sud, je pense que c'est l'application idéale.
Ça peut être un très bon compromis. Michelin demeure être le cheval de bataille dans cette section de marché, dans ce segment de marché-là. Vous avez également du côté de Continental qui fait un bon travail aussi. Dans le BF Goodrich, c'est un pneu qui, la douceur de roulement, ne sera pas au rendez-vous. C'est bon comme produit, mais ça a des applications autres que mettre sur votre sprinter. On peut trouver mieux. Dans le Michelin, comme vous mentionniez, vous avez raison, ça demeure le numéro un.
Merci beaucoup, Germain, d'avoir appelé. Très, très
merci,
gentil. Écoute, il faut déjà faire une pause, malheureusement. Restez en ligne. Préparez vos questions. Jean-Guy, je le garde avec moi. Fait que ça, vous allez pouvoir lui poser les questions que vous voulez concernant les pneus. On s'arrête, puis au retour, Philippe Laguille.
Auto 360 avec Daniel Boudreau.
Auto 360, de retour après la pause.
Au réseau Cogeco. Au réseau Cogeco.
Vous écoutez Auto 360.
Auto 360.
Avec Daniel Boudreau.
Auto 360. Voici la chronique luxe, prestige et histoire avec Philippe Lagu.
Oui, avec Philippe Lagu. Puis Philippe nous en a parlé un petit peu au début de l'émission. La Spider 124, on parle de Fiat.
On parle de Fiat parce que, bon, on parle d'une décapotable aussi parce que même si on est le 21 octobre, on risque d'en voir beaucoup en fin de semaine sur la route parce qu'on est en plein cœur de ce qu'on appelle l'été indien. C'est l'été en automne. On a droit à une dernière dose de soleil et de chaleur avant le retour des températures plus fraîches. Et tous les propriétaires de motos et de décapotables en profitent. Moi, j'en ai vu plein sur la route cette semaine. Je sais pas toi, Daniel.
Oh, il y en a partout.
Ouais, c'est ça. Alors, je me suis donc dit que c'était le moment idéal pour parler d'une décapotable célèbre, la Fiat 124 Spider. Et même si le modèle actuel est plus une Mazda qu'une Fiat, il a quand même sa personnalité bien à lui, là, avec son petit côté italien, vous allez le voir dans le deuxième bloc.
Oh oui.
Puis d'ailleurs, j'ai eu de la misère à me brancher pour la chronique d'aujourd'hui, je te le cache pas, là. Cette semaine, je me demandais, est-ce que je parle de la Mazda ou de la Fiat en premier? Puis là, j'ai dû changer d'idée 25 fois avant de me décider pour de bon. Puis si j'ai finalement opté pour la Fiat, ben c'est pour des raisons historiques. Parce que, bon, la chronique a un volet historique et chronologiquement, la Fiat 124 a vu le jour bien avant la Miata, une bonne vingtaine d'années. Puis, faut le dire, Daniel, ce sont, on le disait en début d'émission, ce sont ces petits roadsters européens des années 60 qui ont servi d'inspiration à la Mazda. Faut pas l'oublier. La Fiat 124 Spider, l'Alfa Romeo Spider aussi, deux italiennes, puis les roadsters anglais également, comme la Lotus Elan, la MG, les Triumph. Alors, voilà pour la raison historique. Puis maintenant, ben, s'il y a des auditeurs, des auditrices qui se demandent pourquoi qu'on parle d'une Fiat dans la chronique Luxe et Prestige, à ça, je vais vous donner deux explications. Premièrement, la Fiat 124 et sa sœur japonaise, la Mazda MX-5, ben ce sont des jouets, hein, on s'entend là-dessus. Ce sont des voitures qu'on peut conduire seulement 6 à 8 mois par année, là, du moins chez nous. Or, ce sont des jouets dont le prix peut varier entre 35 et 50 000 $ selon les versions. Alors, on ne peut pas dire que ce sont des jouets bon marché.
Non.
Non. Puis deuxièmement, ben, Fiat a deux modèles qu'on peut qualifier de mythiques. Hein, on le disait ça aussi en début d'émission. Puis la Spider, ben, est l'une d'elles. L'autre étant, bien sûr, la Fiat 500. Et si je vous parle de Lada, là, vous allez encore plus vous demander, mais qu'est-ce que ça vient faire dans la chronique Luxe et Prestige?
Merci, Philippe, ta dernière chronique. C'était ouais, ça...
Attention, Daniel, comme disait Raoul Duguay, tout est dans tout.
Okay.
Parce que, tu vas voir, la première Fiat 124 Spider, qu'on appelle d'ailleurs à l'origine la Sport Spider, ce qui peut différencier de celle d'aujourd'hui. Là. Aujourd'hui, c'est Spider tout court, mais à l'origine, c'est Sport Spider. Et c'est une voiture qui voit le jour en 1966. Et même si c'est un petit roadster à deux places, elle reprend la plateforme d'une berline, la Fiat 124. Or, c'est cette même Fiat 124 qui va être produite sous d'autres appellations dans d'autres pays, en Espagne, au Maroc, en Turquie, en Corée du Sud. En Corée, Daniel, là, c'est même l'ancêtre de la Kia, parce qu'au début, c'était une Fiat 124 qui était vendu sous l'appellation Asia, qui est devenue Kia par la suite.
Eh ben.
En Inde aussi, et en Russie, où elle va être commercialisée sous la bannière Lada. Alors ça, c'est la Lada qu'on connaît tous, là, la berline carrée, celle-là même qu'on peut encore voir quand on va à Cuba, il y en a encore un paquet là-bas, et qui a été vendue chez nous au début des années 80. Alors ça, c'est une Fiat 124 qui date de 1966, là, pour l'essentiel. Il faut préciser, par contre, que le modèle qui nous concerne aujourd'hui, là, la Spider, n'a jamais été vendu sous un autre nom. Autrement dit, il n'y a jamais eu de Lada décapotable.
Okay.
Alors, la 124 se décline donc, là, à l'époque, en quatre configurations. La berline, la familiale, le coupé et la décapotable. Et la décapotable, ben, c'est justement la Sport Spider, là. Alors, les quatre partagent le même châssis, mais on l'a raccourci pour le coupé et pour la Spider. Comme ce sont des versions sportives, ben, elles ont aussi droit à un moteur un petit peu plus puissant, un 4 cylindres de 1,5 litres à double arbre à cam en tête d'une puissance de 90 chevaux. Et puis ça peut sembler dérisoire aujourd'hui, mais il ne faut pas oublier que ces voitures étaient très légères parce qu'elles n'étaient pas munies de toutes les commodités des voitures d'aujourd'hui, là, ni des accessoires de sécurité. Et à ses débuts, une Spider, ça pesait même pas 1000 kilos, là. C'était autour de 950 kilos. Ben, un peu comme la première Miata. La première Miata, faut pas l'oublier, c'était quoi, 110, 115 chevaux à peu près. Alors, c'était pas un monstre de puissance non plus, là.
Non.
Alors, à l'époque, le design de la Sport Spider est jugé un petit peu trop conservateur. Mais pourtant, ça c'est le beau côté de la médaille, c'est que cette sobriété-là va lui permettre de vieillir en beauté. Parce que la 124 Sport Spider va demeurer pratiquement inchangée pendant 20 ans, jusqu'à la fin de sa vie, en 1985. Et là, je précise, sa première vie, oui.
C'est ça.
Mais il faut dire que la Sport Spider, ça n'a pas été dessiné par n'importe qui. Hein. Toutes les 124 ont été dessinées à l'interne, chez Fiat, sauf la Spider, qui est une création du célèbre studio italien Pininfarina. Et pour la petite histoire, c'est un Américain, Tom Giarda, qui travaille pour Pininfarina et qui est chargé de dessiner la Spider à l'époque. Et là, j'ouvre une parenthèse. Tom Giarda, c'est aussi celui qui a dessiné la De Tomaso Pantera, qui est vraiment son chef-d'œuvre, là.
Ouais.
Puis il faut dire que la pomme n'est pas tombée loin de l'arbre parce que Giarda est lui-même fils de designer. C'est son père qui avait dessiné la Lincoln Zephyr 1937, qui est aujourd'hui considérée comme une des plus belles Lincoln, là. Alors, fin de la parenthèse. Donc, sous cette robe qui est somme toute là, assez classique, il y a une mécanique qui est assez raffinée pour l'époque, hein, surtout venant d'un constructeur généraliste là, comme Fiat. Son moteur à double arbre à cames en tête, on l'a mentionné, avec une culasse en aluminium. Ben, ce moteur-là a été conçu par Aurelio Lampredi. Et ça, c'est un ancien de Ferrari. Alors imagine un gars qui dessinait des V12 de Ferrari qui s'est trouvé chez Fiat après. C'est quand même pas n'importe qui. Puis il faut aussi mentionner ses freins à disque aux quatre roues et sa boîte manuelle à cinq rapports, hein, parce qu'en 1966, on retrouvait ça sur des voitures beaucoup plus chères. Et un peu comme la Porsche 911, la Spider change pas, ou peu, en apparence, mais on lui apporte constamment des améliorations là, pendant sa longue carrière. Là. Officiellement, il y a une seule génération qui a duré plus de 20 ans, mais qui se divise en cinq phases. Là. Il va y avoir cinq séries, là, AS, BS, CS et ainsi de suite. Là. Et chaque série s'accompagne de modifications. D'abord au niveau mécanique, avec une augmentation graduelle de la cylindrée qui va passer de 1,6 litres à l'origine à 2 litres à la fin, et l'injection qui remplace le carburateur en 1979. Il y a aussi des modifications constantes au niveau de la finition, qui devient plus cossue à partir de la troisième série. On va retrouver du cuir volant en bois, tu vois un peu le genre. Et à partir de 1968, la Spider va être exportée en Amérique du Nord, et c'est là qu'elle va connaître le plus de succès. Parce qu'entre 1974 et 1981, elle va même être vendue seulement aux États-Unis. Mais à partir de 1981, Fiat va transférer la production de la Spider à l'usine de Pininfarina. Et là, la Spider va revenir sur le marché européen pour les dernières années de sa vie. Et en tout, c'est un peu moins de 200 000 exemplaires qui ont été produits, 198 200 plus précisément. Et c'est assez peu pour un modèle qui a duré aussi longtemps et qui n'était pas hors de prix, là. En comparaison, il y a plus d'un million de Mazda MX-5 qui ont été produites en un peu moins de 30 ans. Alors, tu vois, tu mesures l'écart un peu, là. Et dans ces 198 000 et quelques exemplaires, il y en a plus de 170 000 qui ont été vendus en Amérique du Nord. Alors, il faut dire c'était vraiment son terrain de prédilection, là. C'était très, très populaire aux États-Unis, entre autres, la côte ouest, tout ça. Et il y a aussi, Daniel, et ça, tu le sais, il y a aussi un autre nom important dans l'histoire de Fiat et de la Spider, et c'est Carlo Abarth. Abarth, c'est un préparateur célèbre d'origine autrichienne qui a longtemps collaboré avec Fiat, qui faisait même des versions un petit peu plus sportives des premières Fiat 500, Fiat a ensuite racheté l'entreprise de Carlo Abarth et a racheté le nom Abarth, comme Mercedes a fait avec AMG. Et dans le vocabulaire Fiat, le nom Abarth est encore utilisé et il est toujours réservé à la version la plus sportive d'un modèle. Alors, il va donc y avoir une version Abarth de la Sport Spider originale. Et elle va s'illustrer en rallye sur les circuits. Puis ça va rehausser son pédigré. Elle va même gagner 3 courses en championnat du monde des rallyes. Gagner le championnat européen des rallyes également. Et il y a un peu plus de 1000 versions routières de la 124 Sport Spider Abarth qui ont été construites, ce qui en fait un modèle très recherché par les collectionneurs. Et c'est ce qui m'amène aussi à vous parler de la résurrection de la Fiat 124 Spider et de sa version Abarth, qui est toujours au catalogue. Alors, on va parler de ça dans le prochain bloc, mon cher Daniel.
Oui, on se reparle dans un instant. Merci, Philippe.
Voiture que tu as essayée, hein, d'ailleurs?
Oui, voiture que j'ai essayée. Ben, les deux, la Mazda et la Fiat.
On va échanger nos impressions dans le prochain bloc.
Oui, on en jase tout à l'heure. Et Philippe, si les gens veulent voir des photos ou encore
oui,
lire
merci,
ça...
merci de le mentionner, Daniel. Sur ma page Facebook, il y a des photos des anciennes Fiat 124. Je me suis permis aussi de mettre l'essai routier que Germain Goyer a réalisé dans le Journal de Montréal, parce qu'on peut voir au moins des photos de la 124 actuelle. Ça, c'est sur ma page Facebook. Et sur mon site www.philippelagu.com, il y a également des photos de la Mazda MX-5, la version RF.
Merci Philippe, on se reparle tantôt et on fait une pause. Restez là, au retour, on répond à vos appels.
Auto 360 avec Daniel Boudreau.
Avec Daniel Boudreau.
Une petite pause, on vient ensuite. Restez là. Au réseau Cogeco.
Auto 360.
Auto 360 avec Daniel Boudreau.
Avec Daniel Boudreau.
Auto 360, l'invité de la semaine.
Oui, mon invité de la semaine, Jean Guérois de Desharnais Pneus Mécaniques, prêt à répondre à toutes vos questions concernant les pneus à neige, pneus d'hiver, c'est la même affaire, ou toutes sortes de pneus, ou encore vous pouvez nous poser vos questions, évidemment comme à l'habitude, pour les gens de Montréal, 514-790-9850, Québec 418-670-9330, ailleurs 1-866-790-9850. Marc Bouchard, une nouvelle de l'industrie.
Ouais, une petite nouvelle, je suis sûr, je vais voir ta face surprise. Écoute, Consumer Report a établi son palmarès des voitures les plus, disons, des manufacturiers les plus et les moins fiables.
Tu me parleras pas de la nôtre aussi, là?
Non, c'est là que ta surprise va arriver. Le premier, c'est Toyota. Regarde si ça t'étonne.
Oh! Surpris.
Et le deuxième, attention.
Lexus surprise, doit être loin.
Son deuxième.
Bon.
Ce qui est quand même surprenant, c'est que tu as Kia qui est au troisième rang, Audi qui suit, BMW, Subaru, Infiniti, Buick. Le seul vrai bémol, en fait, c'est que les marques américaines ont un petit peu de difficulté. Dans le top 10 de la fin, tu as Chevrolet, Jeep, Lincoln, Dodge, Ram, GMC et Cadillac qui est au dernier rang.
Et voilà pour ces nouvelles-là. Et on a Marc en ligne. Bonjour Marc.
Oui, bonjour. Moi, j'ai acheté un Tiguan 2018. Là, je cherchais sur Internet meilleur pneu pour ça. Je sais pas si c'est le meilleur rapport qualité-prix ou c'est le bon pneu, mais qu'est-ce que vous pensez du Blizzak WS80?
Ben, c'est un bon produit. Par contre, c'est sûr que c'est un radial à glace, non pas un neige à glace. Si on n'a pas besoin d'une traction, si on n'est pas beaucoup dans les milieux ruraux, qu'on est plus urbain avec notre véhicule et qu'on fait une utilisation aussi de beaucoup d'autoroutes. Donc, ça demeure un très bon choix. Par contre, il faut que vous ayez un véhicule qui est plus haut qu'un automobile, donc les vents latéraux vous influencent un peu plus sur la route. C'est une carcasse qui est assez mollasse quand même. C'est pas ce qu'il y a de plus rigide dans l'industrie. Et ça peut être désagréable un petit peu à rouler sur
les
autoroutes.
En ville, moi, je l'ai aimé, ce pneu-là. Oui, en ville, il va vous donner vraiment... Est-ce que vous faites beaucoup d'autoroutes, monsieur?
Non.
Pas beaucoup d'autoroutes. Alors, pour en ville, je pense que c'est un choix qui
peut
être un bon choix. Oui.
Absolument.
Un excellent choix. Parfait.
Oui.
Merci beaucoup, Marc.
Merci beaucoup.
Merci. Alors, Stéphane est en ligne. Bonjour, Stéphane.
Salut, ça va bien?
Ben oui, super.
Deux petites choses. Moi, j'ai un pneu 4 saisons. Je sais pas si M. Roy est d'accord avec moi, mais le Nokem Rotiva, moi, je le trouve parfait pour étirer le plus longtemps possible parce que moi, j'ai des pneus à clous. Fait que pour les premières neiges puis les fins de neige, là, moi, je le trouve parfait, puis l'été, il n'est pas très, très bruyant, là.
Oui, Rotiva, c'est un pneu qui se débrouille quand même très bien. Par contre, il faut faire attention, comme on parlait tout à l'heure de glace noire, c'est sûr que c'est un caoutchouc qui va être un petit peu
vulnérable. Il va devenir plus dur lorsqu'il fait froid.
C'est ça, exactement. Il va durcir un peu. Fait qu'il faut être prudent quand même, mais vous avez raison, en étirant ça au maximum, le Rotiva, c'est un pneu qui est capable de vous emmener là.
Mais ça, c'est une bonne utilisation. Je suis content. Mais bon. Là, par contre, là, dès que les grosses neiges arrivent et tout ça, vous allez enlever ce 4 saisons-là.
Ah, moi, ma date limite, là, c'est pas mal le 1er décembre. Là, c'est là que je mets mes pneus à clous pour le restant de l'hiver. Puis, ma petite dernière chose que je voulais savoir avec vous, c'est un petit conseil. Ouais. Ma conjointe a su acheter un Chevrolet Volt.
Oui.
L'été, elle est capable de stationner sur le bord de la maison pour le brancher dans la brise murale du mur.
Oui.
Sauf que l'hiver, avec le déneigement, il faut stationner l'auto à une place que la rallonge, elle n'atteint pas la prise. Là, je voulais savoir le questionnement de rallonge électrique. Est-ce que vous êtes capable de me guider? Il y en a qui disent que c'est bon, il y en a qui me disent que c'est pas bon. Les concessionnaires, ils conseillent pas ça. Êtes-vous capable de me guider par rapport à ça?
En fait, c'est pas suggéré de le faire sur une rallonge, mais si vous allez chercher une rallonge de niveau industriel, donc avec des grosseurs de fil suffisantes, ça va fonctionner quand même. Mais effectivement, vous allez avoir plus de pertes de courant, donc vous allez prolonger la durée de charge du système et ça va être pas mal moins efficace, mais ça va fonctionner quand même, sauf que prenez la peine d'aller chercher une vraie bonne rallonge, parce que la rallonge que vous avez achetée pour votre petit sapin dehors, là, ça marchera pas.
C'est sûr, non, ça, c'est sûr.
Sauf que la rallonge industrielle, va falloir que je sorte les bidous de mes poches.
Bon. Ouais, ça va vous coûter quelques dollars, effectivement, là. Ça va être une rallonge qui va être de meilleure qualité.
Pas vraiment.
Okay. Non, parce que, un bon truc en passant, allez dans un bon cahier, allez vous chercher du câble, du fil 10-3, puis faites-vous-là la rallonge, puis vous allez voir, c'est très économique à faire, et ça va faire le travail 100%.
Comment vous dites ça? Excusez, j'ai manqué cette partie.
Allez vous chercher du câble dans un cahier 10-3. Ouais. 10-3, c'est la grosseur du câble que vous avez besoin. C'est plus que votre câble va être gros, plus que votre courant passe mieux. À ce moment-là, ça tire moins l'ampérage et vous allez être capable de recorder votre volt et puis il n'y aura aucun problème.
Mais je ne sais pas
si
Oui, absolument. Et le concessionnaire n'offre pas ce genre de truc-là parce que ce n'est pas recommandé encore.
C'est dans la débrouillardise 50.
Effectivement.
La question qu'il faudrait vérifier cependant, évidemment, c'est toujours que s'il y a un problème avec une rallonge faite maison, avez-vous un quelconque recours? C'est toujours le problème.
Oui, mais c'est sûr, mais ça se vend. On peut s'en faire des rallonges. Il s'agit juste d'être un petit peu bricoleur le moindrement, mais ça se fait de façon légale. Les connecteurs se vendent, la rallonge, le fil se vend en tant que tel.
Faut pas ménager sur la qualité des composants
c'est ça,
qu'on utilise parce que là.
Mais c'est la grosseur du câble qui fait foi de tout là-dedans. Là.
Bon, ben c'est parfait d'avoir. Merci beaucoup.
Bienvenue.
Merci d'avoir appelé. Bien gentil. Régent est là. Bonjour, Régent.
Bonjour.
Bonjour.
Oui, j'écoutais votre émission là et j'ai entendu ce que je considère être une énormité de dire de mettre les pneus les moins usés en avant. Ça, c'est le dénier la sécurité routière et vous devriez vous renseigner avant de donner un conseil comme ça.
OK. Alors, qu'est-ce que vous faites avec les pneus les plus...
Mettre les meilleurs en arrière.
Les meilleurs en arrière, que ce soit une traction avant ou une propulsion.
Ah, même avec
dans certaines régions d'Europe de montagne où les gens sont pas obligés de mettre 4 pneus d'hiver, s'ils mettent 2 pneus d'hiver... ils sont obligés de les mettre en arrière.
Fait qu'on est au moins 50% d'accord avec vous. Parce que les propulsions, puis quand on mettait juste 2 pneus d'hiver, on les mettait en arrière. Ça, vous avez raison, 100%.
Et moi, je maintiens qu'avec...
sur une traction avant, je sais pas si vous... Moi, j'ai 2 millions de kilomètres derrière moi. Et la conduite hivernale, l'important, c'est de ne pas perdre le train arrière. Dans les courbes, je sais pousser les voitures dans les courbes.
C'est aussi d'avoir de la traction à l'avant pour être capable d'avancer. Merci beaucoup d'avoir appelé.
Bon, mais en tout cas, on sera jamais d'accord si vous dites de mettre les pneus les moins usés en avant.
Merci beaucoup, André. Là, bonjour, André.
Bonjour. Je veux savoir, j'ai changé ma Camry 2012 pour une 2018, et puis je tombe sur le 17 pouces. Et puis, mon concessionnaire me dit, tu peux prendre tes rimes de 16 pouces de ton autre Camry et les mettre dessus. Puis, il me dit, vu que mes pneus sont du 215, 55, 17, il me dit, lui, de mettre du 205, 65, 16. Est-ce que c'est exact?
C'est exact. C'est exactement la bonne dimension à mettre pour la conversion de 17 à 16 dans la dimension que vous êtes chaussé en 17 pouces.
OK.
Le diamètre en tout ne changera pas.
Oui, mais est-ce que je pourrais mettre du 215 sur les 5 au lieu du 205? Non,
là, à ce moment-là, le diamètre va être un peu trop haut, risque de frottement dans les ailes. Surtout, parce que qu'est-ce qu'il faut faire attention sur le diamètre
ortho? Mauvaise
lecture
également.
Mauvaise lecture pour qu'on donne mauvaise information à l'ordinateur. Donc, à ce moment-là, on est en dehors du 3% de marge de manœuvre.
OK, comme ça, mon 205, 65, 16 sera correct.
C'est excellent, c'est ça qui va là.
OK, merci bien, j'ai gentil.
Ça fait plaisir.
Merci, bon.
Et ça, c'est important, Jean-Guy, de rappeler la règle de conversion.
Oui, absolument, parce qu'il faut respecter ça, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, on a beaucoup de capteurs, de sensors que partout qui donnent l'information à l'ordinateur de bord. Et ça, si on joue en dehors du 2 à 3%, on a toujours dit 3% dans le passé, mais il faut se ramener à 1,5-2% maximum pour ne pas avoir d'impact.
Alors, bien important. On s'arrête et au retour de la pause, Philippe Lagu va être là et après ça, on répond à vos questions jusqu'à la fin de l'émission. Restez avec nous.